Les formes de l'État social. Pour mieux comprendre les enjeux derrière ces chiffres, il nous faut maintenant décrire un peu plus précisément à quoi a servi cette hausse historique des prélèvements obligatoires. Cette transformation correspond à la mise en place d'un État social au cours du XXe siècle. La notion d'État social me semble plus conforme à la réalité et à la diversité des missions remplies par la puissance publique que celle plus restrictive d'État-providence ou de welfare state. Au XIXe siècle, et jusqu'en 1914, la puissance publique se contentait d'assurer les grandes missions régaliennes. Ces missions mobilisent aujourd'hui encore un peu moins d'un dixième du revenu national. La hausse de la part des prélèvements dans les richesses produites a permis à la puissance publique de prendre en charge des missions sociales de plus en plus importantes, représentant entre un quart et un tiers du revenu national suivant les pays, que l'on peut décomposer en première approximation en deux moitiés de taille comparables. Il s'agit d'une part des dépenses publiques d'éducation et de santé, et d'autre part des revenus de remplacement et de transfert. Les dépenses publiques d'éducation et de santé représentent entre 10% et 15% du revenu national dans tous les pays développés en ce début du XXIe siècle. Typiquement, 5%, 6% pour l'éducation et 8%, 9% pour la santé. À l'intérieur de ce schéma d'ensemble, on constate des différences significatives entre pays. L'éducation primaire et secondaire est presque entièrement gratuite pour toute la population dans tous les pays, mais l'enseignement supérieur peut être fortement payant, en particulier aux États-Unis et à un degré moindre au Royaume-Uni. Le système public d'assurance maladie est universel, c'est-à-dire ouvert à toute la population, un peu partout en Europe, y compris bien sûr au Royaume-Uni. Il est en revanche réservé aux plus pauvres et aux personnes âgées aux États-Unis, ce qui ne l'empêche pas d'être très coûteux. Si l'on ajoute le coût des assurances privées, le système de santé américain est de très loin le plus cher du monde, près de 20% du revenu national contre 10-12% en Europe. Alors même qu'une part importante de la population n'est pas couverte et que les indicateurs sanitaires sont plutôt moins bons qu'en Europe. Quels que soient leurs défauts, il ne fait aucun doute que les systèmes publics universels d'assurance maladie offrent un meilleur rapport coût-bénéfice que le système américain. Dans tous les pays développés, ces dépenses publiques permettent de prendre en charge une très grande partie du coût des services d'éducation et de santé, environ les trois quarts en Europe et la moitié aux États-Unis. L'objectif poursuivi est de permettre l'égalité d'accès à ces biens fondamentaux. Chaque enfant doit pouvoir avoir accès à la formation, quel que soit le revenu de ses parents. Chacun doit pouvoir avoir accès aux soins, y compris et même surtout lorsqu'il traverse une mauvaise passe. Les revenus de remplacement et de transfert représentent généralement entre 10% et 15%, parfois près de 20% du revenu national dans la plupart des pays riches en ce début du XXIe siècle. Contrairement aux dépenses publiques d'éducation et de santé, qui peuvent être considérées comme un transfert en nature, les revenus de remplacement et de transfert font partie du revenu disponible des ménages. La puissance publique prélève des masses importantes d'impôts et de cotisations, puis les reverse à d'autres ménages sous forme de revenus de remplacement, pensions de retraite, allocations chômage, et de divers transferts monétaires, allocations familiales, minima sociaux, etc. Si bien que le revenu disponible total des ménages considéré dans son ensemble est inchangé. En pratique, les retraites représentent de très loin la plus grande partie, entre les deux tiers et les trois quarts, du total des revenus de remplacement et de transfert. On observe là encore des variations significatives entre pays, à l'intérieur de ce schéma d'ensemble. En Europe continentale, les pensions de retraite dépassent souvent à elles seules les 12-13% du revenu national, avec l'Italie et la France dans le haut du classement, devant l'Allemagne et la Suède. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le système public de retraite est beaucoup plus sévèrement plafonné pour les salaires moyens et élevés. Le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la pension exprimé en proportion des salaires précédemment obtenus, chute assez vite dès lors que le salaire dépasse le salaire moyen, et les pensions ne représentent guère plus de 6-7% du revenu national. On désigne classiquement comme bévéridien ce système plafonné, avec comme cas extrême une retraite quasi forfaitaire pour tous, comme au Royaume-Uni, par opposition au système de retraite de type bismarckien, scandinave ou latin, où les retraites sont quasi proportionnelles au salaire pour la grande majorité de la population, voire la quasi-totalité en France, où le plafond est exceptionnellement élevé, 8 fois le salaire moyen contre 2-3 fois dans la plupart des pays. Il s'agit dans tous les cas de masses considérables. Dans tous les pays riches, le système public de retraite constitue la source principale de revenus pour au moins les 2/3 des retraités, et généralement pour plus des 3/4. Malgré tous leurs défauts, et quels que soient les défis auxquels ils font maintenant face, le fait est que ce sont ces systèmes de retraite publics qui ont permis dans tous les pays développés d'éradiquer la pauvreté du troisième âge, qui était encore endémique dans les années 1950-1960. Avec l'accès à l'éducation et à la santé, il s'agit de la troisième révolution sociale fondamentale qu'a permis de financer la révolution fiscale du XXe siècle. Par comparaison aux retraites, les allocations chômage représentent des masses beaucoup plus réduites, typiquement 1%, 2% du revenu national, ce qui reflète le fait que l'on passe en moyenne une plus petite partie de sa vie au chômage qu'à la retraite. Les revenus de remplacement correspondants n'en sont pas moins utiles le moment venu. Enfin, les minima sociaux correspondent à des masses encore moins importantes, moins de 1% du revenu national, presque insignifiantes à l'échelle de la totalité des dépenses publiques. Il s'agit pourtant des dépenses qui sont souvent le plus violemment contestées. On suspecte les bénéficiaires de choisir de s'installer éternellement dans l'assistance, alors même que le taux de recours à ces minima est généralement beaucoup plus faible que pour les autres prestations, ce qui reflète le fait que les effets de stigmatisation et souvent la complexité de ces dispositifs dissuadent souvent ceux qui y ont droit de les demander. En France, qui brille souvent par la complexité extrême de ces dispositifs sociaux et par l'empilement des règles et des structures, moins de la moitié des personnes qui devraient en principe toucher le RSA activité, revenu de solidarité active venant en complément d'un très bas salaire à temps partiel, en ont fait la demande. On observe ce type de remise en question des minima sociaux aussi bien aux États-Unis, où la mère célibataire, noire et oisive, joue le rôle du repoussoir absolu pour les contempteurs du maigre welfare state américain, qu'en Europe. Dans les deux cas, les masses en jeu ne représentent en réalité qu'une toute petite partie de l'État social. Une différence importante entre les deux continents est que les systèmes de revenus minimum ont toujours été réservés aux personnes ayant des enfants à charge aux États-Unis. Pour les personnes sans enfants à charge, l'État carcéral fait parfois office d'État-providence, en particulier pour les jeunes noirs. Environ 1% de la population adulte américaine est derrière les barreaux en 2013. Ce taux moyen d'incarcération est le plus élevé du monde, légèrement devant la Russie, loin devant la Chine. Il dépasse les 5% pour les hommes noirs adultes, tous âges confondus. Une autre particularité est l'usage des food stamps, dont le but est de s'assurer que les bénéficiaires consomment bien de la nourriture au lieu de s'adonner à la boisson ou à d'autres vices, ce qui est là encore assez peu cohérent avec la vision libérale du monde souvent prêtée aux États-Unis. Cela témoigne de l'importance des préjugés américains à l'égard des plus pauvres, qui semblent plus extrêmes qu'en Europe, sans doute en partie parce qu'ils sont renforcés par des préjugés raciaux. Au total, si on additionne les dépenses publiques d'éducation et de santé, 10%, 15% du revenu national, et les revenus de remplacement et de transfert, également autour de 10%, 15% du revenu national, parfois près de 20%, on aboutit à une masse totale de dépenses sociales, au sens large, comprise entre 25% et 35% du revenu national, qui représente dans tous les pays riches la quasi-totalité de la hausse de la part des prélèvements obligatoires constatée au XXe siècle. Autrement dit, le développement de l'État fiscal au cours du siècle dernier correspond pour l'essentiel à la constitution d'un État social. La redistribution moderne, une logique de droit. Résumons. La redistribution moderne ne consiste pas à transférer des richesses des riches vers les pauvres, ou tout du moins pas d'une façon aussi explicite. Elle consiste à financer des services publics et des revenus de remplacement plus ou moins égaux pour tous, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé et des retraites. Dans ce dernier cas, le principe d'égalité s'exprime par une quasi-proportionnalité au salaire obtenu pendant la vie active. Pour ce qui concerne l'éducation et la santé, il s'agit d'une véritable égalité d'accès pour chacun, quel que soit son revenu ou celui de ses parents, tout du moins au niveau des principes. La redistribution moderne est construite autour d'une logique de droit et d'un principe d'égalité d'accès à un certain nombre de biens jugés fondamentaux. Si l'on se place à un niveau relativement abstrait, on peut trouver des justifications pour cette approche en termes de droit dans différentes traditions politiques et philosophiques nationales. Le préambule de la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 commence par affirmer le droit égal de chacun à la poursuite du bonheur. Dans la mesure où l'éducation et la santé y participent, on peut rattacher ces droits sociaux modernes à ce propos liminaire, avec un peu d'imagination toutefois, car leur réalisation a été longue. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 annonce également « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » et apporte immédiatement la précision suivante « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Il s'agit là d'une addition importante. L'existence d'inégalités bien réelles est évoquée dès la seconde phrase, après que la première a affirmé le principe d'égalité absolue. Telle est bien en effet la tension centrale derrière toute approche en termes de droit. Jusqu'où doit aller l'égalité des droits? S'agit-il uniquement du droit de pouvoir contracter librement l'égalité face au marché, ce qui à l'époque de la Révolution française semblait déjà tout à fait révolutionnaire? Et si l'on inclut l'égalité du droit à l'éducation, à la santé, à la retraite, comme on a commencé à le faire avec l'État social mis en place au XXe siècle, doit-on aussi inclure aujourd'hui le droit à la culture, au logement, au voyage? La seconde phrase de l'article 1er de la Déclaration des droits de 1789 a le mérite de fournir une réponse possible à cette question, puisqu'elle renverse en quelque sorte la charge de la preuve. L'égalité est la norme. L'inégalité n'est acceptable que si elle est fondée sur l'utilité commune. Encore faut-il définir ce terme. Les rédacteurs de l'époque visent avant tout l'abolition des ordres et privilèges de l'Ancien Régime, qui apparaissent alors comme l'exemple même de l'inégalité arbitraire, inutile, qui n'est donc pas dans l'utilité commune. Mais on peut choisir de l'appliquer de façon plus large. Une interprétation raisonnable est que les inégalités sociales ne sont acceptables que si elles sont dans l'intérêt de tous, et en particulier des groupes sociaux les plus désavantagés. Il faut donc étendre les droits fondamentaux et les avantages matériels accessibles à tous autant qu'il est possible, tant que cela est dans l'intérêt de ceux qui ont le moins de droits et qui font face aux opportunités de vie les moins étendues. Le principe de différence, introduit par le philosophe américain John Rawls dans sa théorie de la justice, énonce un objectif peu éloigné. L'approche de l'économiste indien Amartya Sen en termes de capacité maximale et égale pour tous relève d'une logique qui n'est pas très différente. À un niveau purement théorique, il existe en vérité un certain consensus, en partie factice, sur les principes abstraits de justice sociale. Les désaccords apparaissent beaucoup plus clairement lorsque l'on tente de donner un peu de substance à ces droits sociaux et à ces inégalités, et de les incarner dans des contextes historiques et économiques spécifiques. En pratique, les conflits portent plutôt sur les moyens de faire progresser réellement et efficacement les conditions de vie des plus désavantagés sur l'étendue précise des droits qu'il est possible d'accorder à tous, compte tenu notamment des contraintes économiques et budgétaires et des multiples incertitudes qui y sont liées, ou encore sur la délimitation exacte des facteurs que les individus contrôlent ou ne contrôlent pas, où commence l'effort et le mérite, où s'arrête la chance. Ces questions ne seront jamais tranchées par des principes abstraits ou des formules mathématiques. Elles ne peuvent l'être que par la délibération démocratique et la confrontation politique. Les institutions et les règles organisant ces débats et ces décisions jouent donc un rôle central, ainsi que les rapports de force et de persuasion entre groupes sociaux. Les révolutions américaines et françaises ont toutes deux affirmé à la fin du XVIIIe siècle le principe absolu d'égalité des droits, ce qui était sans doute un progrès pour l'époque. Mais en pratique, les régimes politiques issus de ces révolutions se sont surtout concentrés pendant le XIXe siècle sur la protection du droit de propriété.